Moi, je vais être sur les mêmes plates-bandes. À part que je viens de l'architecture, je suis architecte urbaniste, donc je n'ai pas la même entrée, l'entrée socio. Et ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est la forme urbaine. Et la forme urbaine durable, puisqu'on est en plein dans nos questions de développement durable. On a parlé hier des liens Burel, des écoquartiers, aujourd'hui écoquartiers, et donc je vais essayer de parler plus largement de la forme urbaine durable dans son ensemble, et non pas réduite aux quelques quartiers, écoquartiers qu'on fait aujourd'hui. Donc la première chose qu'on peut observer, d'abord petite précision, les observations ne concernent pas la région Île-de-France, mais uniquement les grandes villes françaises, Montpellier, Nantes, Lille, Bordeaux, Toulouse, enfin, et non pas l'Île-de-France. Donc la première chose, c'est l'absence de théorie de la forme urbaine durable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un constat qu'il faut arrêter l'urbanisme réglementaire de la ville fonctionnaliste. La ville fonctionnaliste, petit rappel, c'est la charte d'Athènes qui produit un certain nombre de formes spécifiques avec un urbanisme de zonage qui est évidemment rendu possible par le développement de la voiture. Et cet ensemble de préconisations ont fabriqué nos grands ensembles, centres commerciaux, zones industrielles, lotissements de zones individuelles, voies rapides, tout ce qui forme l'urbanisme tel que vous le pratiquez aujourd'hui tous. Et aussi la suppression pour partie des transports en commun, ou en tout cas leur non-développement pendant un temps assez long. En parallèle, aujourd'hui, donc pas de nouvelle théorie. Yves Chalas se développe en 1997 le concept de la ville émergente. Alors la ville émergente, c'est justement la description de cette ville qui la ville du zonage et qui, quelque part, ne se préoccupe finalement assez peu de la question des délaissés, des espaces délaissés, des voiries, des vides, et qui valorise l'automobile et le mode de vie périurbain. En 2004, David Mangin nous apporte un éclairage sur les évolutions du concept de ville franchisée, dans lequel il nous décrit cette ville, justement, dont le zonage est de plus en plus développé. Et en particulier le zonage de la voirie, puisque les 7V de Le Corbusier sont effectivement appliqués à la voirie, c'est-à-dire que chaque voie a sa forme spécifique d'utilisation. Et il nous propose le modèle de la ville passante, qu'on n'a toujours pas réussi à appliquer, puisque les préceptes de la spécialisation de la voirie sont tellement confortés par les grands corps de l'État qu'on continue à fabriquer un zonage au niveau de la voirie, qui est toujours des rocades, des pénétrantes, des zones piétonnes, etc. Et des voies spécifiques pour le transport en commun. François Hacher nous rappelle que les villes reflètent les logiques des sociétés qu'elles abritent et nous suggère d'en cesser avec une représentation nostalgique de la ville européenne qui considère que tout l'humain doit être dense et continu. Donc, la ville durable, ce qu'on nous propose, c'est un urbanisme de projets urbains. Alors, ça se concrétise par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, la loi SRU du 13 décembre 2000, qui légifère sur la nécessité d'assurer une plus grande cohérence entre les politiques d'urbanisme et de déplacement dans une perspective de développement durable. Elle fixe trois objectifs essentiels: la lutte contre la périurbanisation et le gaspillage de l'espace, en favorisant le renouvellement urbain. Deuxième objectif, la mise en œuvre d'une politique de déplacement au service du développement durable. Et enfin, l'incitation à la mixité urbaine et sociale. Donc pour sa mise en place, elle remplace les plans d'occupation des sols, les POS, par les PLU, plans locaux d'urbanisme. De même, elle remplace les schémas de développement, les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme par les SCOT, schéma de cohérence territoriale. Alors, ce concept de ville durable ne s'accompagne pas pour autant de formes de ville spécifiques, tout au plus de recommandations. On nous parle de densité, de mixité sociale, d'espaces verts, de voies douces, de pistes cyclables, mais ce n'est qu'un ensemble de concepts, de mots. Et en même temps, cet urbanisme se veut un urbanisme de projet et non plus de règles. Alors, qu'est-ce qui nous permet de dire qu'il va y avoir des projets là où, finalement, quand on fabriquait la ville avec des postes, on ne faisait pas de projet? C'est l'introduction d'un document qui s'appelle le PADD, Plan d'aménagement et de développement durable, à l'intérieur des nouveaux, des nouvelles considérations réglementaires, à savoir des PLU et des SCOT, qui sont rendus obligatoires et qui, de fait, vont définir les orientations générales d'urbanisme et d'aménagement. Et éventuellement, dans une seconde partie facultative, ils peuvent, ces documents, préciser des orientations et prescriptions particulières concernant plus spécifiquement des espaces ou des quartiers. Donc on est loin du projet urbain tel que l'entendent les architectes, tel que vous l'avez décrit dans un schéma dessiné. Et donc c'est, de fait, on en reste toujours à un urbanisme réglementaire, même si on l'appelle urbanisme de projet. Et d'ailleurs, dans ce que vous décrivez, c'est toujours justement un projet urbain dessiné sur un morceau de la ville qui a été, à un moment donné, défini comme celui sur lequel on allait travailler. Mais la ville, bien sûr, c'est pas uniquement ça. Et donc, la complexité de la ville semble se réduire à une somme de projets de quartier, plus ou moins plurifonctionnels, reliés par des tramways, et des trams d'espaces verts. Donc ça, c'est ce qu'on voit à peu près sur toutes les villes que j'ai observées. Et on voit émerger un nouveau modèle, qui est le modèle de l'écoquartier, que je ne développerai donc pas, puisqu'il a été largement appréhendé. Alors ce projet urbain se limite ainsi à une image architecturale faite pour vendre la ville, qui reste toujours soumise à un urbanisme réglementaire. Et donc on ne voit pas apparaître de projet urbain au sens de projet de ville. On a les morceaux. Alors, ce qui caractérise aussi cette fabrication de ville, c'est partout apparaissent les termes de verte, ville verte et ville dense. Alors, déjà, c'est un peu antinomique pour un architecte, vert et dense, c'est l'un ou l'autre. C'est difficile d'avoir du vert et du dense en même temps. De fait, on a une densité réelle faible dans tous les nouveaux projets. L'impératif de densité répond à la limitation de l'étalement urbain, nuisible à l'environnement, tant par la surconsommation de terrain que par la destruction des paysages et la pollution engendrée par les déplacements automobiles. Il justifie ainsi le développement des transports en commun et valorise la ville de la proximité. Mais ces opérations deviennent des modèles stéréotypés, peu denses de fait, en raison en particulier de la prolifération des parcs systématiquement associé aux opérations. Alors là, on n'en a pas parlé dans les opérations qui ont été vues hier et aujourd'hui. Je suis un peu étonnée parce que c'est assez systématique dans toutes les opérations. Chaque fois qu'on fait de la densité, comme si on avait très très peur de la densité, on fait un parc. Et alors, de fait, déjà, les opérations ne sont pas très denses puisqu'elles sont de l'ordre de 60 logements par hectare. C'est la densité des ZUP, des grands ensembles à peu près. Et quand vous lui ajoutez un parc qui est à peu près dimensionné autant que la ZAC qu'on vient de fabriquer, la zone d'aménagement concerté qu'on vient de faire, on diminue par deux et on n'est plus à 60 logements par hectare, on passe à 30 logements par hectare. Ce qui, de fait, correspond à une densité de ce qu'on appelle une maison de ville. Donc les habitants de ces nouveaux quartiers doivent vivre en immeuble, mais sans avoir ni les avantages de la densité, ni ceux de la maison de ville. Donc on perd tous les avantages. Pour rappel, quand on impose la densité dans la ville dite durable, c'est pour permettre la ville à pied, c'est la ville de la proximité. La ville à pied, c'est, pour là aussi donner un ordre de grandeur, les centres-villes, c'est 150 à 200 logements par hectare, c'est-à-dire 5 fois plus. Effectivement, quand on est 5 fois plus dense que les quartiers dont on vient de parler, on peut imaginer la ville à pied. Et en fait, ce n'est pas seulement l'habitat, et on a beaucoup parlé d'habitat, qui est peu dense. C'est tout le tissu urbain qui est distendu par donc, cet urbanisme fonctionnaliste qui l'a fabriqué. C'est la voirie, les équipements publics, les activités tertiaires, les activités commerciales. Tout est distendu, tout est étalé. Et on, par contre, on nous parle toujours d'étalement urbain. Enfin, il y a une sorte de corrélation permanente entre étalement urbain et habitat individuel, lotissement, comme si seul l'habitat était la source de tous les maux et qu'il fallait arrêter cet habitat individuel. Mais on ne parle plus du reste. Donc les espaces publics contemporains sont plutôt conçus comme des jardins de vue, plus espace de représentation du quartier que support des différents usages traditionnels de l'espace public. Donc dans cette multiplication à nouveau de verdure, de verre. Et on remarque aussi que ce verre, il est autant dans les villes du sud, où les pelouses sont quand même assez difficiles à entretenir, et très très peu durables, puisqu'il faut les arroser si on veut avoir une chance qu'elles fonctionnent. Donc ça semble assez contradictoire de développer des espaces verts aussi importants dans des situations climatiques qui ne s'y prêtent pas du tout. Mais donc le plus surprenant, c'est encore qu'aucune prescription, aucun règlement ne vise l'étalement commercial. Donc on parle d'étalement individuel, mais l'étalement commercial, on n'en parle jamais. Et nos entrées de ville aujourd'hui ne semblent faire appel qu'à la critique esthétique, alors que parking et boîtes commerciales sont autant, voire plus, de gaspillage de l'espace que les maisons individuelles incriminées. Le développement durable, qui initialement est fondé donc sur les dimensions environnementales, économiques et sociales et culturelles, qu'on a longuement évoquées hier et aujourd'hui, semble se limiter, bien sûr, qu'à la seule vision environnementale, ce qui a été dit. Les immeubles écoquartiers sont affublés de nombreux labels écologiques. Là, on a beaucoup parlé des labels d'écoquartiers, mais c'est pareil pour les immeubles. Peut-on réellement accéder à pied au commerce? On peut se poser la question. Accéder aux équipements publics et à ces mêmes espaces verts qui sont conçus de manière assez vaste et parfois assez même éloignés des habitations. Et donc, peut-on accéder facilement aux services avec une aussi faible densité et dispersion des services? Enfin, le classement des villes durables... Le classement des villes durables se fait sur des critères essentiellement environnementaux et techniques, donc multiplication des normes, BBC, etc., qu'on a déjà vu. L'indicateur de référence pour les classements des villes européennes en matière d'environnement est la surface d'espace vert par habitant, ce qui peut expliquer pourquoi on multiplie les parcs pour justement pouvoir accéder à ces fameux labels. Et au point même de confondre, bien sûr, vert et durable. Exemple de Nantes, qui va, je crois, devenir capitale verte de l'Europe en 2013, donc verte, durable. Nantes, ville durable, en raccourci. La loi du Grenelle 1 de l'environnement du 3 août 2009 impose des trames vertes et bleues pour conserver des corridors écologiques afin de protéger la biodiversité. Donc finalement, c'est la seule trace qu'on voit. Il y avait des questions évoquées, je ne sais plus quand, sur la biodiversité. Voilà, ça c'est concret, trames vertes et bleues. Et la ville durable se doit avant tout d'être donc verte et dense. Les parcs sont justifiés par la densité des immeubles, alors que cette densité, comme je l'ai dit, est déjà... Mais ils servent aussi de tampon ou de séparation avec les autres zones. Ça permet justement de valoriser un certain nombre de lieux lorsqu'ils sont un peu trop près de zones commerciales, de zones de ZUP, de grands ensembles ou de lieux valorisés. Et enfin, donc, le paysagiste remplace de plus en plus l'urbaniste puisque les fleuves, les parkings, les voiries... reconvertis en parkway, verdissent, mais occupent toujours autant d'espace. Et au départ, quand même, le postulat, c'était de limiter l'étalement urbain. Donc on continue l'étalement urbain, mais on le garde. Ces espaces verts, dont l'achat, la création et l'entretien sont à la charge de la totalité des contribuables, sont essentiellement fréquentés par les habitants des quartiers proches, sauf dans les espaces de forte centralité où les aménagements sont à l'échelle de la ville. Bon, on voit les bords de fleuve à peu près dans toutes les villes qui aussi développent de grands espaces verts et des parcs commerciaux. On remarque donc que ces injustices sociales et spatiales et l'importance des mises à distance traduisent des tendances peu compatibles avec les injonctions de durabilité. Tout ça nous amène à une dimension sociale limitée, ça a été aussi abondamment évoqué. Les structures familiales ont changé, se sont diversifiées. Le modèle du couple avec enfant plébiscitant la maison individuelle est en diminution. Un quart d'entre eux forment aujourd'hui des ménages recomposés. Les ménages sont de plus en plus petits. Un tiers est composé de ménages d'une personne, un deuxième tiers de ménages de deux personnes, et enfin, il ne reste plus qu'un tiers composé de ménages de plus de deux personnes, ce qui peut expliquer aussi une relative facilité à imaginer d'arrêter l'étalement urbain par l'habitat individuel. L'habitat individuel, finalement, devient difficile à financer quand on est tout seul et que les salaires diminuent. Donc, le nombre moyen de ménages, de personnes par ménage est passé de 3,1 en 1968 à 2,3 en 2008. Ce qui fait dire que même s'il n'y avait aucune augmentation de population, il faudrait quand même prévoir de nouveaux logements. Donc ça explique aussi ce besoin permanent d'augmentation du nombre de logements qui n'est pas que lié à l'augmentation de population, de nouveaux immigrés ou je ne sais quoi, qui fait que de fait... D'ailleurs, en Espagne, les préoccupations qu'ils ont en matière d'urbanisme sont essentiellement justement ces questions d'augmenter le logement en fonction des cohabitations et en parallèle l'étalement commercial. Donc, on voit aussi que selon les pays, les problématiques de développement durable ne sont pas du tout axées sur les mêmes choses. Enfin, en parallèle, le périurbain de plus en plus éloigné continue de se développer dans les aires urbaines. Alors les chiffres de l'INSEE 2011 sont assez terribles. Quoi. Les gens n'ont pas arrêté, simplement comme les SCOT, donc les schémas d'urbanisme, interdisent quasiment l'habitat individuel, on va plus loin. Donc on a l'impression qu'on est arrivé exactement à l'inverse de ce qu'on essayait de faire. C'est-à-dire on éloigne les populations, et en particulier évidemment les moins favorisées, ceux qui ne peuvent pas se payer des terrains proches qui sont trop chers. L'incitation à la mixité urbaine et sociale s'est focalisée sur la mesure des 20% imposés de logements sociaux et la volonté d'introduire du commerce de proximité dans de vastes opérations d'aménagement urbain. La dimension sociale se traite essentiellement par la question du logement. Les critères applicables pourtant pour l'attribution des logements font qu'aujourd'hui, en effet, 60 à 70% de la population, selon les régions, peut prétendre à un logement social au vu de ses revenus. C'est-à-dire qu'on nous demande 20%, mais il faudrait 70% si on garde les mêmes critères. Et l'obligation des 20% de logements sociaux, l'accession sociale à la propriété compte, et le logement subventionné ou conventionné, construit et parfois géré par les entreprises privées, sont aussi comptabilisés par les pouvoirs publics, ce qui diminue encore. Donc on constate dans tous ces quartiers peu de propriétaires occupants, qui sont en général les 30% de propriétaires occupants qui sont les primo-accédants, qui sont à peu près dans toutes les actes. Ce qui reste, c'est donc 70 à 80% de locataires. Là aussi, on peut s'inquiéter de l'évolution de ces quartiers vers les copropriétés dégradées telles qu'on les a eues après les grands ensembles. Et de la même manière, la mixité sociale, c'est aussi une mixité propriétaire-locataire qu'on ne voit pas trop ici. Une mixité urbaine réduite, la mixité fonctionnelle... La mixité fonctionnelle est limitée à l'implantation du commerce de proximité et au développement du transport en commun. C'est-à-dire qu'en fait, on remplace la proximité par la mobilité. Aujourd'hui se développent les documents d'aménagement commercial, les DAC, qui sont de fait un nouveau système pour mettre en place les zones commerciales et qui ne sont pas du tout réalisés par des architectes et des urbanistes, mais plutôt par des agences spécialisées pour mettre les zones commerciales là où elles sont le plus pertinentes et le plus efficaces. Donc ces zones commerciales, je vais peut-être passer là. La rénovation des zones commerciales existantes dans les centres-villes aussi se multiplie. Et de la même manière, je sais aller vite, un exemple d'éco-parc commercial, puisqu'on a parlé tout à l'heure de plusieurs fois des éco-quartiers, mais sur l'étalement urbain commercial, on continue, puisqu'on fait des éco-parcs. Alors les éco-parcs, ça ressemble à ça, une image vaut mieux que l'on discours. C'est la même chose, à part que c'est recouvert de bois. Et puis, alors, vous ne voyez pas, peut-être pas, mais derrière, en filigrane, il y a des voitures. En fait, c'est un parking. Je vous montre le parking. Le parking, une zone commerciale, nouveau modèle. Alors ça, c'est des zones qui ont aussi des labels. Celui-là a obtenu le label Valor Park. Et donc, c'est... Évidemment, l'atoll, là ça s'est fait forte connotation environnementale, c'est le tout premier éco-parc commercial. La nature est omniprésente dans le projet, en toiture, au limite de l'ellipse traitée en prairie ondulante. Enfin voilà. Vite. Donc, le contexte économique et financier des projets urbains, donc la ville, moteur du développement économique durable. Donc ça c'est les politiques de marketing urbain, mais on en a parlé longuement. Et enfin le forum des projets urbains. Alors c'est un lieu qui rassemble une fois par an les acteurs financiers, investisseurs, maîtres d'ouvrage, maîtres d'œuvre, promoteurs, commercialisateurs, et les élus commanditaires de ces projets. Le forum permet de mutualiser les expériences de conduite de projet, etc. Alors ça c'est ce que dit la plaquette de présentation et de promotion du système. Et pour créer une émulation entre les élus et puis les prestataires. Donc le forum est sponsorisé par la Caisse des dépôts et un certain nombre d'opérateurs de projets urbains qui sont Bouygues, Nexity, Eiffage, la compagnie de Facebook et tous ceux qui vont financer le projet. Merci.